VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h30 en temps universel, Anastasie Tudiech avec vous. Tout de suite les titres, la France dépose un projet de résolution à l'ONU pour le déploiement d'une force militaire africaine chargée de combattre djihadistes et trafiquants de drogue dans le Sahel. Après la Mauritanie, le Sénégal rappelle son ambassadeur au Qatar dans la foulée de la brouille entre Riyad et Doha. Élections législatives anticipées au Royaume-Uni, les premières post-Brexit. 12 morts en Iran lors de la première attaque revendiquée par le groupe État islamique dans le pays. Le monde aujourd'hui, c'est aussi le sport et l'économie, mais tout de suite, c'est le journal. La France a présenté mardi un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour le déploiement d'une force militaire africaine chargée de combattre les djihadistes et les trafiquants de drogue dans le Sahel. Tatiana Mosso.
Le Conseil devrait voter sur cette proposition de résolution la semaine prochaine. Le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso, qui composent le G5 Sahel, ont accepté en mars de constituer une force de 5000 hommes chargée de cette mission. Le quartier général de la force sera basé au Mali, mais sera sous commandement séparé de celui des 12 000 casques bleus de la MINUSMA qui sont déployés au Mali depuis 2013. Le ministre des Affaires étrangères du Niger, Ibrahim Yacouba, en déplacement à Bamako, a indiqué que le G5 espérait avoir un mandat de l'ONU d'ici la fin juin permettant de déployer la force. L'Union européenne a annoncé lundi lors d'une visite dans la capitale malienne une aide de 50 millions d'euros pour la mise en place de cette force. Les djihadistes qui ont fondé une nouvelle coalition ont multiplié ces derniers temps des attaques meurtrières au Mali, au Niger et au nord du Burkina Faso.
Et le prochain sommet du G5 Sahel se déroulera le 2 juillet à Bamako en présence du président français Emmanuel Macron. C'est ce qu'ont annoncé hier les ministres des Affaires étrangères des pays concernés au terme d'une réunion dans la capitale malienne. Après la Mauritanie, le Sénégal annonce aujourd'hui le rappel de son ambassadeur au Qatar et s'est dit solidaire des pays de la péninsule arabique et de l'Égypte qui ont rompu leurs relations diplomatiques avec Doha en l'accusant de soutien au terrorisme. Au Cameroun, le tribunal militaire de Yaoundé a décidé aujourd'hui de maintenir en prison des leaders anglophones. Ils sont poursuivis pour terrorisme. La reprise de leur procès est fixée au 29 juin. Nous y reviendrons dans notre partie magazine. L'Union africaine et les Nations unies ont proposé une réduction majeure de leurs forces conjointes de maintien de la paix au Darfour, déployées il y a 10 ans et qui coûtent $1 milliard par an. Un rapport conjoint recommande une baisse de 44% des effectifs militaires et de 30% des policiers. Le Conseil de sécurité devrait débattre de la question la semaine prochaine. Au Maroc, le plus ancien parti politique, l'Istiklal, a annoncé ce mercredi son soutien total aux revendications des manifestations qui secouent depuis 7 mois le nord du pays et a demandé la libération immédiate des leaders de la contestation. En Tunisie, la justice a suspendu hier les activités du parti islamiste radical Hizb ut-Tahrir, accusé d'incitation à la haine. Le parti qui prône l'instauration d'un califat en Tunisie a dénoncé aujourd'hui la suspension injuste et injustifiée de ses activités pour 1 mois, une décision judiciaire dont il entend faire appel. L'homme ayant agressé au marteau un policier devant la cathédrale Notre-Dame de Paris, un journaliste algérien qu'il avait recruté dans son journal en 2013, a estimé inimaginable que Farid I, auteur présumé de l'attaque hier d'un policier à Paris, soit un djihadiste. L'attaquant était journaliste en Suède, où il était inconnu des services de renseignement. Il aurait quitté la Suède pour l'Algérie en 2013, où il a été recruté à El Watan, un quotidien francophone farouche. Opposé aux islamistes.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, attaque meurtrière en Iran. Au moins 13 personnes ont été tuées et 46 blessées à Téhéran. Des hommes armés et des kamikazes ont attaqué le Parlement et le mausolée de l'imam Khomeini. Pour la première fois, le groupe État islamique revendique une attaque sur le sol iranien. Le point tout de suite avec Yacouba Ouedraogo.
Les assaillants, déguisés en femmes, ont fait irruption au siège du Parlement et ont ouvert le feu. L'un d'entre eux s'est ensuite fait exploser et les autres ont été tués. Les victimes sont essentiellement des travailleurs du Parlement, car les terroristes n'ont pas pu accéder à la salle de la plénière. Les députés ont continué leur session dirigée par le président du Parlement, Ali Larijani. Presque au même moment, au mausolée de l'imam Khomeini, des terroristes ont tiré des coups de feu et deux d'entre eux, dont une femme, ont actionné leur ceinture explosive. L'Iran chiite est engagé militairement en Syrie pour soutenir le régime de Bachar al-Assad. Le groupe djihadiste sunnite avait menacé en mars de s'attaquer à l'Iran et provoquer un bain de sang chez les chiites. Les gardiens de la révolution, l'armée d'élite du régime iranien, ont accusé les États-Unis et l'Arabie saoudite d'être impliqués. Ils ont fermement promis de venger le sang des innocents.
Et le département d'État américain, dans un communiqué, a condamné ces attaques et présenté ses condoléances aux victimes et à leurs familles. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont accentué la pression sur le Qatar 3 jours après avoir rompu avec leurs partenaires du Golfe qu'ils accusent de soutenir le terrorisme. Les deux pays exigent du Qatar qu'il modifie sa politique sur les islamistes radicaux et ses liens avec l'Iran chiite. Le président des États-Unis, Donald Trump, a appelé aujourd'hui lors d'un entretien téléphonique avec l'émir du Qatar à l'unité des pays du Golfe, évoquant une possible rencontre à la Maison-Blanche pour tenter d'apaiser les tensions. Et puis toujours au Moyen-Orient, une ONG palestinienne estime qu'Israël cherche à défier les États-Unis et la communauté internationale tout en créant de nouveaux obstacles à la paix. En cause, la décision prise hier par une commission relevant du ministère de la Défense israélien de faire avancer les plans de construction de 1500 logements en Cisjordanie occupée, dont une nouvelle colonie, une première depuis 25 ans. En Syrie, des combattants kurdes et arabes soutenus par les États-Unis gagnent du terrain à Raqqa après le lancement de l'assaut final pour prendre au groupe État islamique sa capitale de facto. Le Kurdistan, région autonome du nord de l'Irak riche en pétrole, a annoncé la tenue le 25 septembre d'un référendum sur son indépendance. Les Kurdes irakiens, qui seraient plus de 4 millions, soutiennent majoritairement l'idée d'indépendance. Bagdad s'y oppose et les pays occidentaux sont réticents. Réunion aujourd'hui des ministres de la Justice de l'Union européenne au Luxembourg. Ils vont plancher sur l'adoption d'un accord sur le lancement d'un parquet européen. Les législatives en Grande-Bretagne, c'est demain. C'est le dernier jour de cette campagne pendant laquelle les attentats djihadistes ont ravi la vedette au Brexit. Morgane Guériac.
La première ministre Theresa May et son adversaire Jeremy Corbyn tiennent leurs ultimes meetings. La sécurité est au cœur des débats. Le Royaume-Uni a été le théâtre de 3 attaques meurtrières en moins de 3 mois, toutes revendiquées par le groupe État islamique. Jeremy Corbyn accuse Theresa May de maintenir la sécurité du pays à moindre frais. Il promet de recruter 10 000 nouveaux policiers et 1 000 agents supplémentaires pour les renseignements. De son côté, la chef du gouvernement a déclaré qu'elle pourrait restreindre certains droits pour réduire la liberté de mouvement des personnes suspectées d'activités terroristes et faciliter leur expulsion du territoire britannique. Les résultats de ces premières législatives depuis le Brexit restent incertains. L'écart de plus de 20 points qu'avait en avril la formation de Theresa May s'est réduit de manière drastique. À la veille du scrutin, les travaillistes talonnent les conservateurs.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a annoncé qu'il envisageait de nommer Christopher Wray nouveau directeur du FBI après le limogeage de James Comey début mai. Jacques Aristide.
Un homme aux états de service impeccable, les mots du président Trump sur Twitter à propos de Christopher Wray, qui a notamment servi comme adjoint du ministre de la Justice américain dans l'administration de George W. Bush entre 2003 et 2005. Il avait travaillé au sein d'un service en charge des affaires de fraude commises par des entreprises et de dossiers concernant les marchés financiers américains. Il travaille actuellement pour un cabinet d'avocats à Washington et Atlanta. Un ancien responsable du FBI s'est toutefois interrogé sur la capacité de Christopher Wray à diriger la police fédérale, agence qui compte plus de 35 000 employés. Le Sénat doit approuver le choix de Donald Trump. Son annonce intervient à la veille de l'audition de l'ex-patron du FBI, James Comey, devant la commission du renseignement du Sénat sur le rôle joué par la Russie accusée d'ingérence dans la présidentielle américaine. Le FBI enquête également sur de possibles collusions entre des membres de l'équipe de campagne du milliardaire et Moscou.
Et précisons que s'il est confirmé par le Sénat, M. Wray entamera un mandat de 10 ans comme chef du FBI. Quant à James Comey, il a confirmé dans une déclaration écrite au Congrès, publiée ce jour, que Donald Trump lui a bien demandé d'abandonner l'enquête sur Michael Flynn, son ancien conseiller mêlé à l'affaire de l'ingérence russe dans l'élection américaine. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
Nouveau décaissement pour la construction du pont de Rosso sur le fleuve Sénégal. Amadou Ba, ministre sénégalais de l'économie, et Ambroise Fayol de la Banque européenne d'investissement ont signé un contrat de financement de 22 millions d'euros à l'occasion des journées européennes du développement qui se tiennent à Bruxelles. Projet existant depuis plus de 50 ans, le pont de Rosso est le chaînon manquant du corridor transafricain numéro 1 entre Dakar et le Caire. La compagnie aérienne Air Portugal, qui opérera dans le ciel ivoirien dès juillet 2017, effectuera des vols directs à Abidjan-Lisbonne. La Côte d'Ivoire devient une destination privilégiée des investisseurs depuis la fin de la crise post-électorale de 2011-2012 en raison de son environnement économique jugé favorable. En 2016, le trafic à l'aéroport d'Abidjan a atteint les 2 millions de passagers en augmentation de 16%. Kirou, le premier studio de création de jeux vidéo camerounais, vient de lancer Kirou Rembuntu, une plateforme de formation à la recherche de financement pour les porteurs de projets africains. Objectif, former 10 000 entrepreneurs en Afrique francophone.
Le sport maintenant avec vous Nicolas Pinault, bonsoir.
Bonsoir Anastasie, bonsoir à tous.
Et on commence avec une série de matchs amicaux ce soir sur la planète football.
Sans Cavani, Suarez, Verratti ni Balotelli, l'Italie-Uruguay en match amical disputé ce soir à Nice perd un peu de sa splendeur, mais reste un choc de prestige entre deux sélections qui ont gagné 6 Coupes du Monde à L2. Edinson Cavani, le buteur du Paris Saint-Germain, s'est blessé à un mollet au bout de 10 minutes du précédent match amical qui avait été perdu dimanche par l'Uruguay. C'était à Dublin contre l'Air, 3-1. Autre choc ce soir, Espagne-Colombie à Murcie. La saison a été frustrante pour James Rodriguez en partance du Real Madrid, faute de temps de jeu, mais le milieu offensif colombien peut s'offrir une belle revanche sur son pays d'accueil lors de ce match amical.
Manchester est le club le plus cher au monde.
Manchester United est le club de football européen le mieux valorisé devant le FC Barcelone et le Real Madrid, leader en la matière lors des 4 précédentes saisons. C'est ce qu'a établi le magazine économique américain Forbes dans son classement. La valorisation de Manchester United à l'issue de la saison 2015-2016 est estimée à 3,69 milliards de dollars. Soit une progression de 11% sur un an. On rappelle que le club anglais devance le FC Barcelone, le Real Madrid, le Bayern Munich et Manchester City.
Tennis, tournoi de Roland-Garros.
Oui, Novak Djokovic ne détient plus rien. Au sommet, il y a un an, le Serbe a perdu son dernier titre du Grand Chelem aujourd'hui à Roland-Garros. Une défaite 7-6, 6-3, 6-0 contre le jeune Autrichien Dominic Thiem qui défiera Rafael Nadal en demi-finale. L'Espagnol en quête d'un 10e titre sur la terre battue parisienne. N'est resté que 51 petites minutes sur le court jusqu'à l'abandon au début du 2e set de son compatriote Pablo Carreño touché aux abdominaux.
Et troisième match de la finale de la NBA, c'est pour la nuit prochaine.
Et oui, le troisième match ce soir entre Cleveland et Golden State. Hier, en conférence de presse, l'entraîneur de Golden State, Steve Kerr, et sa star Stephen Curry ont assuré qu'ils étaient concentrés sur la conquête du titre NBA et non sur la possibilité historique de réaliser des playoffs parfaites avec 16 victoires sans une seule défaite. On rappelle que les Warriors ont enchaîné 14 victoires de suite, nouveau record NBA, en dominant respectivement Portland 4-0, Utah 4-0 et San Antonio 4-0. Pour le moment, ils mènent 2-0 dans cette finale.
Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Place maintenant à nos dossiers du jour. Pas de liberté provisoire pour deux des trois leaders de la contestation en zone anglophone du Cameroun. Agbor Bala, avocat international, et Fontem Neba, enseignant en université, sont poursuivis pour actes de terrorisme. Correspondance à Yaoundé de Jules d'Emmanuel Jules Ntap.
La présidente du tribunal militaire de Yaoundé s'est abondamment appuyée sur la loi antiterroriste du Cameroun pour prendre la décision de maintenir l'avocat Agbor Bala et l'enseignant Fontem Neba en prison. Rappelant au passage que pour les poursuites consécutives aux actes de terrorisme, la mise en liberté provisoire sous caution n'est pas prévue par la loi. À cette décision prononcée par Dame Echo, il n'y a eu que le silence de la défense face au micro des journalistes. Seul l'avocat Wala Eskoumé expliquera le sentiment mitigé des avocats après la décision de maintenir un de leurs collègues en prison durant ce procès.
International law has privilege.
Le droit international est supérieur au droit national. Les avocats que nous sommes avions plaidé pour leur libération selon le droit international. Mais pour le tribunal criminel, ils ne peuvent l'être dans cette circonstance parce qu'ils sont poursuivis pour des crimes punis de peine de prison à vie ou de mort.
Le 29 juin, l'audience reprend de plus belle, cette fois-ci pour le débat de fond. Et Maître Wallace Koum espère que justice sera rendue à qui de droit.
La décision conforte les avocats et les accusés dans une bonne position parce que l'affaire sera jugée et la justice sera rendue. Nous prions que la justice soit en leur faveur. Si cela n'est pas le cas, nous serons frustrés.
Arrivé au tribunal militaire de Yaoundé en culotte, pieds nus, chemise déboutonnée, l'autre accusé de proue dans l'affaire, l'animateur Manto Bibiti, est reparti de l'audience en criant à haute voix Sadons Cameroun will win. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA, Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Burundi, le carburant est une denrée rare depuis presque deux mois, ce qui perturbe le quotidien de milliers de personnes, tant dans la capitale qu'à l'intérieur du pays. Notre correspondant Christophe Nkurunziza a parcouru le centre-ville de Bujumbura.
Il est 6h GMT sur l'avenue de l'université qui divise les quartiers Roero de Nyakabiga et Biza. Une longue file de véhicules sont en train d'être servis sur une des trois stations de l'avenue. Mais vers 10h, aucun véhicule n'est plus servi. Le gérant affirme que le stock de fuel est déjà terminé. Quand on se dirige vers le centre-ville de Bujumbura, aucune station n'est de service. À l'avenue du Lâche, une petite file de véhicules est visible devant la station. Plus au sud de la capitale, devant le parking du quartier de Musaga, une jeune maman accompagnée de sa mère se rend vers la province de Rutana, au sud-est du Burundi. Elle indique que ces derniers temps, les prix du ticket de transport ont grimpé.
Parfois, on demande 10 ou 12 000 francs burundais, mais avant la pénurie de carburant, on payait 6 000 pour le transport à Rutana. On payait 7 000 aux agences de voyage. Aujourd'hui, on fait payer 8 000 ou plus selon la disponibilité du carburant. Nous pouvons avoir les bus pour le sud du pays, mais ils ne font pas légion comme avant. Que les autorités fassent le nécessaire pour disponibiliser le carburant.
C'est un voyage également vers la société sucrière de Mosso, ce saumon en sigle, de la commune de Bukemba en province de Rutana au sud du Burundi. Il estime que le prix n'a pas beaucoup augmenté pour cette agence de transport Memento.
Ça arrive qu'on manque les déplacements et le prix reste le même. C'est 10 000 francs de Bujumbura jusqu'à ce saumon. Ça arrive qu'on manque les déplacements. Dans le voyage, on peut prendre d'autres véhicules, mais c'est cher par rapport à Memento. Memento, ça va.
Les prix ont augmenté pour des agences de transport de l'intérieur du pays, entraînant la hausse des prix des produits. Certains véhicules boycottent se rendent dans certaines localités assez éloignées. Pour ce chef de charron de l'agence Memento, ils arrivent de temps en temps à avoir du carburant, mais difficilement.
Nous approvisionnons dans les stations normales de la capitale. C'est mieux ces derniers temps car nous arrivons à avoir de temps en temps du carburant. Mais avant, il n'y en avait pas. Quand on n'a pas de carburant, on arrête le transport. On ne peut rien faire sans mazout.
Certains chauffeurs passent des heures et des heures devant des stations sans être servis. Des travailleurs arrivent souvent en retard au service. C'est toute maman de la zone de Roero a préféré mettre dans son parking sa voiture.
Je me débrouille à pied. Maintenant, je dois me lever très tôt pour avoir le lift auprès des amis, des voisins, des sœurs et frères. Je ne fais plus mes propres affaires comme je le voulais. Quand on demande que la situation soit débloquée.
Pénurie de carburant est justifiée par le manque de devises étrangères selon les autorités burundaises. Les ministres de l'énergie et des mines, comme Manirakiza, expliquent que comme la monnaie burundaise n'est pas utilisée à l'extérieur, certains importateurs de carburant ne reçoivent pas les devises équivalentes. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Alerte au faux vaccin contre la méningite dans la sous-région ouest-africaine. Elle est lancée, cette alerte, par l'Organisation mondiale de la santé, alors que la maladie fait depuis janvier dernier des ravages au Nigeria et au Niger notamment. C'est un reportage de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Tout est parti du Niger, comme l'explique le ministre de la Santé, Dr Idi Ilyasu Menasara.
Il y a une pharmacie ici à Niamey qui a constaté dans ses lots de vaccins, ce genre de vaccins. Et heureusement, cette pharmacie a eu, en tout cas, à réagir comme le recommande le règlement sanitaire international. Elle a contacté directement cette firme-là. Et effectivement, la firme a confirmé que ce vaccin-là, c'est du vaccin falsifié avec le nom du laboratoire, avec le numéro de lot, la date de péremption. Et la lettre a été adressée à l'OMS. Et c'est en ce moment-là que l'OMS a donné l'alerte pour quand même informer la population qu'effectivement il y a la circulation de ce vaccin en Afrique de l'Ouest.
Il n'y a pas pour l'instant de manifestation post-vaccinale indésirable qui est attribuée à ce vaccin. Malgré tout, le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Niger insiste sur la vigilance. Docteur Asiwami Pana.
À partir du moment où l'information est donnée à toute la population, il est extrêmement important aux individus qui se font vacciner ou qui prennent des médicaments de faire très attention, de les chercher dans les structures qui sont effectivement habilitées à donner ces vaccins-là, à produire ces vaccins-là. Parce que tous les vaccins qui sont vendus doivent être vendus par un canal que le ministère contrôle très bien. Aujourd'hui, on parle des vaccins, mais il faut parler des médicaments en général. Donc aujourd'hui, on assiste à justement à des médicaments qui sont vendus n'importe comment, n'importe où.
Les autorités sanitaires du Niger, elles, ont aussitôt activé les services de veille et de surveillance sur l'ensemble du territoire national, rassure le ministre de la Santé.
On a passé à la télé la photo du vaccin, le lot, l'identification. Et on a demandé à toutes ces chaînes d'approvisionnement, une fois qu'ils sont en contact avec ce lot, même si c'est par hasard qu'ils se retrouvent dans leur contact, de contacter les services compétents. Et déjà, nous avons pratiquement tous les inspecteurs de santé du ministère qui sont dans les différentes centrales au niveau des pharmacies pour vérifier pratiquement tous les vaccins qui sont disponibles. Si par hasard ou d'aventure on retrouve ces jarres de l'eau, c'est de le récupérer.
En rappel, l'épidémie de méningite sévit au Niger depuis le mois de janvier dernier. Plus de 5200 cas ont été enregistrés avec près de 360 décès. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos,
et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Canada, des hommes politiques, pour la plupart originaires d'Afrique francophone, investissent dans l'immobilier à cause de la souplesse de la régulation dans ce pays. C'est ce que révèle le quotidien canadien, le Journal de Montréal, dans une enquête qui affirme que 30 millions de dollars canadiens sont injectés dans le secteur par ces personnalités, dont certaines sont poursuivies en France ou dans leur pays d'origine pour biens mal acquis. Abdourahman Dia a joint Hugo Jonka, le journaliste qui a mené l'enquête. Écoutons-le.
Ils viennent de 6 pays différents. L'Algérie, le Burkina Faso, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Sénégal et le Tchad. Il y a aussi un contact le camerounais là, de l'espèce de réseau que j'ai trouvé. Puis ils ont investi là, plus de 30 millions de dollars dans l'immobilier au Québec ces dernières années.
Et qu'est-ce qui les attire au Canada?
Montréal est un bon plan pour eux parce que c'est un marché immobilier assez stable, même comparé aux autres pays riches. Celui de Montréal est très stable. Il n'y a pas eu une grosse correction immobilière, par exemple, ces dernières années, comme on l'a vu aux États-Unis. Donc, Montréal est intéressant et c'est francophone. Ce sont tous des gens de l'Afrique francophone que j'ai trouvé. Et également, il n'y a pas vraiment d'enquête en cours sur des actifs de dictateurs africains en ce moment au Canada, contrairement en France, à la France où il y a des enquêtes en cours, comme vous le savez sans doute, là, sur les biens mal acquis.
Donc, sur le plan juridique, c'est assez facile d'investir au Canada pour ces personnes.
A priori, il n'y a pas trop d'interventions qui se font. Les banques doivent déclarer au service de renseignement financier ici quand un compte est ouvert par par quelqu'un qui est proche d'un régime, là, par exemple, quelqu'un qui est proche du président, d'un ministre, d'un dirigeant de société d'État, etc. Mais rien n'empêche cette banque de tenir un compte pour ces gens-là. La plupart de ces personnes-là aussi ont agi sans prendre d'hypothèque. Donc, c'est une façon de procéder pour rester un peu en dessous du radar.
Selon votre enquête, ces personnes n'ont commis rien d'illégal. Où se situe le problème alors?
On ne peut pas dire qu'il y a eu quoi que ce soit d'illégal qui a été commis au Canada par aucune de ces personnes-là. Par contre, il y en a qui ont été questionnés par les services secrets de leur pays, qui ont été jugés dans leur pays, qui sont les sujets d'enquête en France sur les biens mal acquis. Alors, ce sont des enquêtes en cours.
Oui. Et justement, comment réagit-on au Canada suite à votre enquête? Est-ce qu'il y a des appels à enquêter sur l'origine de ces fonds ou même à changer les lois sur l'investissement immobilier?
Oui, l'opposition à Ottawa a demandé une enquête là-dessus, mais le gouvernement n'a pas vraiment réagi, ceci dit, à notre enquête. Pour l'instant, je ne pense à rien de ce côté-là. On ne sait pas trop ce que la police fédérale, la Gendarmerie royale du Canada, qui a la juridiction d'enquêter sur ce genre de questions-là, les questions financières transnationales, la GRC ne communique pas sur ces enquêtes, donc on ne peut pas dire si oui ou non notre reportage a déclenché de nouvelles initiatives.
Hugo Jonka, journaliste d'investigation au quotidien canadien Le Journal de Montréal.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout, comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Why they look at me? They gonna send you. No.
C'est l'énergie nigériane de Yemi Alade pour vous dire au revoir. C'était Tumbo Tumbo, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Sim Slomami était à la réalisation avec l'assistance technique de Tien Wang. Restez sur VOA Afrique. Très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wenpanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.